Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il grandit en banlieue, dans une famille modeste, entre deux parents divorcés. Le père est officier de police. Jean-Jacques, son grand frère, fait des petits trafics et se suicidera en prison. Philippe, lui, décroche péniblement un CAP d'aide comptable avant d'enchaîner à son tour les délits, vol de voiture, écoulement de fausses monnaies. En 1977, il est écroué une première fois. Il s'évade, puis vit en cavale. En 1979, lors d'une fusillade, il abat deux gardiens de la paix. Le 20 octobre 1980, la peine capitale est prononcée contre lui. Il a 23 ans, il est condamné à mort. L'avocat général prononce alors ces mots « La mort est inscrite dans le destin de Philippe Maurice, car s'il n'est pas tué, il tuera encore ». 21 ans plus tard, en mars 2000, l'homme est libéré. En prison, il a passé son baccalauréat, une licence, une maîtrise, puis soutenu une thèse de doctorat sur la famille en Gévaudan au XVe siècle, pour laquelle il obtient les félicitations du jury. Il est aujourd'hui historien, chercheur à l'EHESS, spécialiste d'histoire médiévale. Entre-temps, Philippe Maurice a fait la très brève connaissance de Brigitte. La jeune avocate a trouvé sa vocation dans les suites de mai 68. Elle milite très à gauche, elle lit Foucault, Guattari. Elle manifeste contre la peine de mort, les tribunaux militaires, les quartiers de haute sécurité. C'est son histoire que nous racontons aujourd'hui et comment elle a croisé celle du fameux dernier condamné à mort et ce qu'elle est devenue depuis. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un récit de Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Six. Dimanche après-midi, banlieue résidentielle de l'Ouest parisien, je vais chez Brigitte. Elle a un certain âge, une vie normale, un mari, des enfants et un chien.
Bonjour.
Bah, beau gosse.
C'est qui ça?
C'est mon chien, c'est le chien le pire du monde.
Beau gosse. Allez, viens.
Elle a exercé de nombreux métiers. Babysitter, caissière chez Carrefour, vendeuse de barbe à papa, écrivain. Mais son vrai travail, celui qui a rempli sa vie, auquel elle s'est accrochée, elle l'a trouvé par hasard dans le journal. C'était au début des années 80. Elle lit un article sur un avocat célèbre. Il est en photo. Elle le trouve beau. Elle veut le rencontrer. C'est ainsi que tout commence.
Elle commence un jour de mes 22 ans quand j'ai rencontré un avocat qui avait été l'avocat d'un condamné à mort. Il avait sorti un livre, donc j'ai lu l'article sur le livre. Je flash sur la photo. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis allée le voir et je lui ai demandé pourquoi il avait laissé exécuter le condamné à mort. Et l'avocat s'appelle Thierry Lévy. Et c'est devenu effectivement un grand, grand avocat parisien. Et je pense que l'histoire commence là. J'étais étudiante à Nanterre. C'était dans les années 70, ouais, puisque j'ai prêté serment en 78, donc on va dire 75 même. Et puis à l'époque, moi je ne savais pas du tout comment rencontrer un avocat. Enfin, j'étais une petite étudiante de deuxième année, mes parents sont forains, hein, donc c'est te dire que le milieu était à 100 lieues du barreau. Ils avaient un manège, ils avaient un grand 8. Et ils avaient des tavernes dans lesquelles ils vendaient de la choucroute, avec un orchestre alsacien. Voilà, on chantait des chansons alsaciennes. Oui, c'est de la musique comme ça. C'est l'odeur de la barbe à papa, c'est le son, parce que c'était un grand 8 qui avait des wagonnets qui descendaient à toute vitesse, espèce de vroom comme ça. C'est les soirées avec l'orchestre bavarois et c'est les gens qui lèvent la chope. Et moi, pour payer mes études, j'étais caissière à Carrefour et l'été, j'étais à la fête des loges où je tirais de la bière que je vendais à des soulards tout en prenant le premier bouquin que je trouvais et en essayant de me planquer derrière le comptoir pour que personne ne me demande quoi que ce soit. Mais j'ai grandi là-dedans, oui. J'ai grandi là-dedans. Et j'ai fait des études relativement facilement. Après avoir eu mon bac, j'ai fait du droit, mais plus parce que je ne savais pas trop quoi faire. Médecine, c'était compliqué. Les lettres, il n'y avait pas de débouché. Donc je me suis dit, je vais faire du droit, mollement. Et j'étais en deuxième année, ça je m'en souviens très bien. Et donc je vois cet article. Et je sais pas, je flash là-dessus, j'achète le livre, je lis le livre, je trouve que le livre est formidable. Et qu'est-ce que j'aimerais le rencontrer? Bon, mais sauf que je savais absolument pas comment le rencontrer. Et pendant un TD de droit civil, on se met à parler de je sais pas quoi, et que je dise, oui, d'ailleurs, j'ai lu un article dans Nouvel Observateur sur un type qui s'appelle Thierry Lévy. Et la chargée de TD dit, ah, mais je le connais. Et je vais la voir à la fin, je dis, bah, vous le connaissez, comment est-ce que je peux le rencontrer? Elle me dit, bah, c'est simple, je vous donne son téléphone, appelez-le. Ça, c'est beau gosse. Et donc, je prends mon téléphone et j'appelle Thierry Lévy. Je le rappelle 10 fois, 15 fois, il n'était jamais dispo, je finis par laisser mon numéro de téléphone. Et il me rappelle, en fin de journée, je me souviens très bien, et au téléphone, il avait juste une voix sublime. Mais sublime. Et je reste tétanisée. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et je dis, non, rien, j'aurais bien voulu vous rencontrer. Il me dit, bon, venez, tel jour, tel heure. Et je me pointe à son cabinet. Il était à l'époque dans un cabinet qui était rue de Narbonne. C'était une impasse comme ça. Et il avait un truc au rez-de-chaussée. Il faisait un soleil d'enfer. C'était très sombre. Il me fait attendre dans une bibliothèque pendant assez longtemps. Et il arrive et il correspondait exactement à la photo et à la voix. C'est parti de là. Et après cet entretien, on s'est quitté comme ça, je l'ai rappelé et je lui ai dit, est-ce que je peux venir travailler dans votre bibliothèque? Et il m'a dit, oui, si vous voulez. Et donc je me suis implantée dans la bibliothèque. Bon, je suis passée de la bibliothèque au secrétariat de temps en temps, à l'ouverture de porte, au décrochage de téléphone. Et puis je ne suis jamais partie en fait. Je pense que j'avais un bel avenir devant moi. Alors comment les choses ont basculé? C'était une époque où tout était possible. Après, j'ai très vite mesuré le fossé qu'il y avait entre mon éducation et l'éducation des gens que je côtoyais. C'est quand même le barreau de Paris. Ce sont des gens qui sont brillants en règle générale, mais qui, on le sent, ont des années et des années d'éducation derrière eux, ce que moi je n'avais pas. On me l'a fait sentir. Non, on l'a pas fait sentir, parce que c'est des gens très polis, donc ils ne vont pas sentir ce genre de choses. En revanche, il y avait toute une culture qui me manquait. Je me souviens, j'avais été invitée à dîner chez le bâtonnier Monet-Vieville, et quand je suis arrivée, il y avait 3 couverts, je ne savais juste pas à quoi ils servaient, quoi. Et c'était très compliqué. Ça a été très compliqué, parce que ce n'était pas compliqué d'arriver chez Thierry Lévy. Voilà. Ce qui était compliqué, c'était de s'intégrer dans un monde qui n'était pas le sien. Moi, chez moi, on lisait François. Eux, ils lisaient Le Monde. Moi, au début, quand je lisais Le Monde, je ne comprenais rien. Il m'a fallu des années avant de comprendre quelque chose au monde. Et si j'ai eu ma licence en droit, actuellement, je pense que c'est vraiment un miracle. Voilà, c'était Nanterre, c'était une époque. Et c'était aussi l'époque où les avocats, il y avait une frange d'avocats qui était une frange militante. C'était l'après 68, c'était les 70-80, où tout était possible dans tous les domaines. Il y avait la solidarité avec les gens des quartiers de haute sécurité. C'était le moment de la bande à Bader. C'était le moment où tout bougeait, y compris au barreau. Et j'ai eu cette chance-là, c'est que dans cette petite frange, j'ai pu trouver des marques. Bon, ce qui explique la suite aussi. Voilà, c'est, j'étais quelqu'un de projeté dans la cour des grands, alors qu'elle n'avait rien fait pour. La première fois que je suis rentrée au quartier de haute sécurité de Fresnes, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Tu passais, bon, il y avait la grande cour, après il y avait une première division, une deuxième division, une troisième division, et là, on arrivait dans un endroit, mais c'était mais insupportable, les murs étaient moisis, dans le parloir avocat, il y avait de l'eau qui coulait sur le mur, le type que je venais voir est arrivé, il était blafard tellement il avait froid. C'était des conditions de détention qui étaient quand même extrêmement dures. Et c'est vrai que je commençais à avoir des dossiers. J'étais l'avocate de Charlie Boer, j'étais l'avocate d'un certain nombre de gens, tout simplement parce que, comme j'étais tous les samedis dans toutes les prisons, que ce soit Fresnes, Fleury ou La Santé, il y avait une sorte de bouche à oreille qui s'était mis en place et les gens se refilaient le truc. Alors, c'était aussi, ah ouais, c'est une nana, elle a des grands cheveux et des sandales. Ouais, puis elle est sympa, elle est de gauche, tout ça. Donc voilà, ça avait fini par faire boule de neige comme ça. Et on va dire que je commençais à avoir une, pas une réputation parce que c'est un grand mot, mais en tout cas, j'avais un début de clientèle. De haute sécurité, il y avait un de mes clients qui un jour m'a dit « Est-ce que vous connaissez un type qui s'appelle Philippe Maurice ?» Et j'ai dit « Bah non, enfin si, c'est quelqu'un qui a tué deux policiers. Oui, ben écoutez, est-ce que vous accepteriez de le défendre ?» Et il faut quand même que tu saches que c'était monnaie courante à l'époque, hein, que les gens qui étaient dans les QHS étaient seuls 24 heures sur 24, donc ils avaient quand même tendance à désigner des avocates, femmes et jeunes de préférence, non pas tellement par leur qualité de défense, mais aussi pour leur physique, et puis pour avoir des visites, et bon, donc c'était pas... voilà, il y en a eu d'autres, hein, qui m'ont désigné comme ça, c'était pas, voilà, que j'ai vu une fois, et puis bon. Et donc je rencontre Philippe Maurice et je le trouve mais totalement détestable, un type mais froid, arrogant, vraiment je l'ai pas trouvé sympathique du tout. Et je suis jamais retournée le voir. Je crois que j'ai même renvoyé mon permis de communiquer au juge en disant bon, écoutez vraiment. Bon. Et puis je suis quand même allée à l'audience. Alors, il était jugé pour avoir tué deux policiers. Alors, la particularité du truc, c'est que ça se situait en juin 80. C'était juste avant les élections, Giscard Mitterrand. La peine de mort existait encore. Et tout le monde était certain que Philippe Maurice serait condamné à mort et exécuté. Et donc, je vais au procès en octobre, j'assiste à une partie de l'audience, et là je suis tétanisée de voir ce qui se passe. Mais c'était effrayant, quoi. Il y avait une atmosphère, la salle était remplie de policiers, enfin, ce qui était après tout bien normal, parce que c'était des amis, des gens qui avaient été tués, mais bon. Et l'avocat général fait un réquisitoire dans lequel il dit à la fin... à la mère de Philippe Maurice qui était dans la salle, « Madame, je voudrais bien vous rendre votre fils, mais je ne peux pas le faire parce qu'il est irrécupérable et en conséquence, je demande qu'il soit condamné à mort. » Et là, la mère se met à hurler. Bon, les jurés se retirent pour délibérer. Ils reviennent. Et Maurice est condamné à mort. Et il y a eu un instant, tout le monde était parti et j'étais restée dans la salle. Et on s'est regardé, il y a eu un regard comme ça. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Et je suis retournée le voir après. Et je l'ai vu, je crois, 7 ou 8 fois dans le quartier des condamnés à mort de Fresnes. Et là, je me suis trouvée face à un mort. Mais à quelqu'un qui voyait arriver sa mort, qui en parlait. Je me souviens, un jour, j'étais allée le voir, il venait de recevoir la visite du médecin, parce qu'il avait une angine, et il m'a montré sa gorge, il a posé les deux doigts sur la gorge, et il a dit oui, parce que il m'a donné les antibiotiques, parce qu'il faut qu'on me mette, faut qu'on me garde en forme, parce que quick, il a fait le geste de couper le... Et je dois dire que j'étais dans un état de sidération et d'angoisse vraiment extrême.
Oui, parce que condamnation à mort, c'était la guillotine.
C'était la guillotine. Alors, il s'est passé que j'avais rencontré un des amis de Philippe Maurice, dont je n'ai jamais donné l'identité, et que j'ai appelé Pierre. Plutôt beau mec. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait une liberté de vie. Bon, après tout, j'avais le droit de coucher avec qui j'avais envie, donc on s'est liés. Et puis il n'arrêtait pas de me parler de Philippe, il n'arrêtait pas de me dire on va le guillotiner. Et je devais aller voir Philippe Maurice à Fresnes et je rencontre mon ami, entre guillemets, Pierre, juste avant. Et j'avais une mallette qui était, à l'époque on faisait des sacs à soufflet. Voilà. Et il glisse un truc dans le soufflet. Ben, il me dit, ben, hier, t'as vu un truc dans une vitrine, ça t'a plu, je te l'ai acheté. Je lui dis, ben, écoute, c'est super cool, merci, t'es gentil.
Donc un cadeau, il t'a glissé un cadeau.
C'était ouais. Un cadeau, en tout cas, oui, d'amoureux, si on veut. Et il me dit, ben, salut, ben, au revoir, bon, on s'embrasse, il se barre, je me barre. Et je mets le sac dans ma bagnole, puisqu'on était à l'extérieur. Je mets la bagnole en route, je prends la direction de Fresnes, je me gare sur le parking de Fresnes, j'attrape le sac, je rentre à l'intérieur de la prison de Fresnes, je donne mon permis de communiquer, donc je traverse la cour, je donne mon permis de communiquer, je devais voir 2 mecs ce jour-là. Bon, je ressors, j'avais toujours le sac dans le même état, hein, et je vais voir Maurice au parloir, ok ? Donc, on l'appelle, et les parloirs des condamnés à mort... On était assis comme toi et moi, il y avait une table au milieu et il y avait une porte vitrée. Et devant la porte, il y avait 2 gardiens, toujours. Et il fermait la porte et je sortais toujours avant Philippe Maurice. Voilà, c'était une routine établie. Ok, donc ce jour-là, je me mets en face de Maurice, je place le sac là, comme ça, j'allume une clope et... Il prend le truc en plastique dans mon sac. Et là, je le regarde et je tourne la tête vers la porte et il n'y avait plus personne. Les gardiens n'étaient pas là. OK ? Et je vois Maurice qui sort une arme du sac et qui la met dans sa ceinture. Et il met son pull dessus. C'était un Colt 45. Et je lui dis, mais enfin, vous faites quoi là ? Il me dit, bon, écoutez, voilà, taisez-vous. On ne vous fera pas porter le chapeau, vous savez bien que je vais être guillotinée. Je dis, mais enfin, vous avez... Mais il me dit, vous voyez bien, il n'y a personne. Je dis, mais comment il n'y a personne? Mais je vais sortir avant vous, ils vont fouiller. Il me dit, non, vous inquiétez pas, ça se passera bien. Bon, ok. Le gardien, entre-temps, était revenu. Je me lève, je prends le sac, et au lieu de me faire sortir avant Maurice ou l'inverse, je ne sais plus, il fait l'inverse. Et là, je me dis dans ma petite tête d'imbécile, bon ben, les gardiens sont de mèche, ce qu'il n'était pas, il va sortir, il va s'évader. Donc, je vais fermer ma gueule, on le condamnera, on le guillotinera pas, et personne ne saura jamais rien, et je rentre chez moi, je prends ma bagnole, je rentre chez moi, je m'enferme, rideau, terminé. Et à 15h30, il y a un flash, à la radio, c'était Europe 1, incroyable évasion, tentative d'évasion à la prison de Fresnes. Philippe Maurice a condamné à mort, a pris une arme et a essayé de tuer le gardien, enfin mon machin, etc. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Rien. Je reste toujours chez moi. Genre, il ne s'est rien passé, je ne veux pas le savoir. J'ai rien vu. Je reste chez moi et à 20h, c'est la brigade criminelle avec Marcel Leclerc en tête qui est venue me voir en me disant, bah, écoutez, voilà. À l'issue de cette brillante histoire, j'ai été condamnée à 5 ans de réclusion criminelle. Voilà. Et qu'au passage, je n'ai jamais dénoncé la personne qui m'avait donné ce cadeau. Et que, voilà. On m'en a beaucoup voulu à cause de ça aussi. Parce que bon, c'était pas bien de pas le dénoncer. Mais bon. Par le jeu des fameuses réductions de peine, j'ai donc effectué seulement, entre guillemets, 3 ans et 8 mois, ce qui fait quand même voilà, quasiment l'intégralité. J'ai eu des conditions de détention qui n'étaient pas si terribles que ça, parce qu'à l'époque, les prisons n'étaient pas encore complètement surpeuplées. J'étais seule en cellule, à deux quand je le demandais, mais la majorité du temps seule. Et j'étais quand même... très protégée, on va dire ça, de par mon statut d'avocat, puisque j'ai été radiée du barreau, mais beaucoup plus tard. Cela étant dit, j'étais tellement tétanisée par ce qui s'était passé, que ça a été volontaire ou non, que j'ai pas bien réalisé ni ce qui m'arrivait, ni ce qui se produisait. J'étais en quelque sorte gelée, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que j'étais ni bien ni mal, sortie de la garde à vue et du passage chez le juge d'instruction. Ça va être terrible à dire, mais je crois que j'étais plutôt soulagée d'être en prison, parce qu'à l'époque, on était complètement protégés de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de bulle de ciment. Alors, à la fois, c'est très difficile, et à la fois, on n'a pas les remous de l'extérieur, et Dieu sait que des remous il y en a eu, parce que ça, cette affaire a provoqué un tollé, enfin, ça fait la une des journaux, et tous les membres de ma profession, mis à part un ou deux, se sont, avec un bel ensemble, empressés de me condamner sans même que j'aie été jugée. Et en fait, ils me le pardonneront jamais, ça c'est sûr. Là, après 30 ans, j'ai un casier judiciaire vierge, j'ai un parcours qui est normal, hein, on va dire. Je traverse dans les clous, je paie mes impôts, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai toujours travaillé, j'ai fiche de paye. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que le barreau, c'est fini. Fini, terminé. Je demandais ma réinscription, ils ont dit non. Et donc, voilà, c'est non. Dans ma petite tête d'imbécile naïf, j'ai évidemment pas imaginé 5 minutes qu'un revolver, ça pouvait servir à blesser quelqu'un, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc, ça m'a même pas traversé l'esprit. Hein. Et donc, malheureusement, un gardien a été blessé, Jacques Bouvier a été grièvement blessé. Et ça, c'est, voilà, il n'y a pas de quoi être fier de ça, franchement. Franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Parce que ce n'est pas la vie d'un homme contre la vie d'un autre. Ce n'est pas « je veux sauver Philippe Maurice et Jacques Bouvier manque mourir ». Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je pense que Philippe Maurice s'est comporté comme un connard, parce que, voilà, quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'arme lui a été amenée, s'en servir pour blesser un gardien, c'est juste stupide. Voilà, parce que d'abord, il n'a pas pu s'évader. Ensuite, il a quand même, alors pour le coup, il aurait pu vraiment être guillotiné, parce que ça a ajouté encore au passif. Et heureusement pour lui, François Mitterrand a été élu, et cette histoire lui a permis de passer le cap des élections, puisqu'on ne pouvait pas le guillotiner avant qu'on soit jugé. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que le Philippe Maurice irrécupérable, qu'il fallait guillotiner dans les 5 minutes, a fait 23 ans de prison, il est devenu docteur en histoire, il enseigne, il est marié, je crois qu'il a une petite fille, et il est totalement récupéré.
Est-ce que Philippe Maurice t'a écrit, dit quelque chose, donné de ses nouvelles après ?
Alors, on s'est vu une fois, mais non, on ne se voit pas. Mais Philippe Maurice, c'est... Comment vous dire ? Tout le monde a dit que je devais être amoureuse de Philippe Maurice. Pas du tout, je ne suis pas amoureuse, je n'ai jamais été amoureuse de Philippe Maurice. Je suis très contente qu'il soit devenu ce qu'il est maintenant. Mais bon, j'ai... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à Philippe Maurice ?
Mais lui, qu'est-ce qu'il aurait pu dire ?
Ah bah, il m'a jamais dit merci, en tout cas, ça c'est sûr. Hein, ni pardon, ni quoi que ce soit. Non, ça, non, oui. Non. Si, il a dit des choses assez gentilles dans ses livres, en disant que j'étais une jeune femme idéaliste. Bon, voilà. Mais bon, il m'a jamais dit merci. T'as juste fracassé ta vie, pour rien. J'ai juste failli dessouder un type à cause de toi. Enfin bon, c'est... Non. Non, mais je crois que Philippe Maurice, il a l'excuse d'avoir été extrêmement préoccupé par sa propre réinsertion, et ça a mobilisé toute son énergie, donc il n'a pas grand-chose à donner. Enfin, maintenant, oui, mais à l'époque, il n'avait pas grand-chose à donner aux autres. Mais mon procès, hein, même... Non, pas... Mais bon, en même temps, est-ce qu'il faut attendre un merci Je sais pas, j'attendais pas spécialement quoi que ce soit.
Beau gosse,
tout toi. The moon is hanging in the purple sky. Baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sur du vendredi avec L'Avocate et le Revolver, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Marie Placet et diffusé pour la première fois le 18 septembre 2014. Sandrine Chaperon, c'est toujours l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos clics, vos retweets et vos likes avec impatience.